Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une ce soir, plusieurs dirigeants européens réunis en urgence à l'Elysée aujourd'hui.
Un sommet informel alors que les États-Unis font de plus en plus cavalier seul. Les Européens veulent renforcer leur soutien à l'Ukraine, améliorer aussi leur défense face aux menaces sur leur sécurité. Plusieurs capitales ont notamment évoqué le déploiement de troupes sur le sol ukrainien. Le procès de 5 geôliers présumés de l'État islamique s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Parmi les victimes, 4 journalistes français capturés par les djihadistes en 2013. Nous ferons le point sur cette première journée de procès avec notre journaliste Laura Martel. Les interrogations au Vatican concernant l'état de santé du pape François, son hospitalisation va durer plus longtemps que prévu. Et puis Paris prépare un grand programme pour défendre l'industrie des éoliennes européennes face à la concurrence chinoise.
Et puis à 6 jours des élections législatives en Allemagne, c'est un changement d'air qui est annoncé, le candidat de la CDU en tête dans les sondages. Qui est Friedrich Merz? Eh bien, son portrait à suivre après ce grand journal du soir. Nous appellerons nos collègues du journal La Croix. La sécurité de l'Europe est à un tournant.
Déclaration d'Ursula von der Leyen juste avant son arrivée à Paris pour une réunion de crise sur l'Ukraine. Le ton est donné, celui de l'urgence et du sursaut pour les pays européens qui assistent impuissants depuis une semaine à l'offensive diplomatique lancée par Donald Trump, prêt à discuter directement avec la Russie sur l'Ukraine sans se concerter nécessairement avec ses alliés. Les Européens craignent donc de rester à l'écart des négociations. Ils ont peur aussi pour la sécurité du continent européen. Devant un possible lâchage de son allié américain. Emmanuel Macron a donc voulu rassembler à l'Elysée plusieurs dirigeants clés de l'Europe. Bonsoir Daniel Valot.
Bonsoir.
La réunion a débuté vers 16h et elle se poursuit encore à l'heure où nous parlons.
Oui, il s'agit d'une réunion informelle qui ne devrait aboutir à aucune décision majeure mais qui doit permettre aux pays conviés par la France de se concerter et de ne pas rester les bras croisés face à cette accélération soudaine de l'histoire à laquelle nous assistons depuis la semaine dernière. Alors, outre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Alberto Costa, le président du Conseil européen, et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. L'Elysée a convié les dirigeants de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Pologne, mais aussi ceux de l'Espagne, de l'Italie, du Danemark ou encore des Pays-Bas. Un panel réduit des dirigeants européens, ce qui ne manque pas d'ailleurs de susciter la protestation d'une partie des pays qui n'ont pas été conviés à Paris.
Ce qui est sûr, Daniel, c'est que les pays conviés à Paris, eux, comptent parmi les soutiens de l'Ukraine au sein de l'Europe.
Oui, c'est le dénominateur commun, bien évidemment. Le seul dirigeant qui ne fait pas partie de l'UE et qui est à Paris, Keir Starmer, dirige un pays évidemment très proche des États-Unis, le Royaume-Uni, mais qui est à la pointe avec la Pologne du soutien à l'Ukraine. Il y a ce point commun, mais il y a aussi bien sûr des divergences, notamment sur la question d'une éventuelle présence militaire en Ukraine. Certains pays, la Suède ou le Royaume-Uni, se sont déclarés ce lundi officiellement prêts à envoyer des troupes dans le cas d'un accord de paix, mais d'autres refusent encore de l'envisager. Olaf Scholz a même dit tout à l'heure, le chancelier allemand, qu'il trouvait hautement inapproprié, ce sont ses termes, d'en discuter pour le moment.
L'autre grande question, c'est la capacité des pays européens à assurer leur défense.
Oui, il y a nécessité pour les Européens de faire plus pour notre sécurité, expliqué en amont de cette réunion un conseiller d'Emmanuel Macron. Il y a urgence car les Européens sont clairement bousculés, désemparés face aux déclarations très virulentes venues de leurs alliés américains. Il faut des mesures concrètes concernant nos propres capacités de défense, a ainsi déclaré ce lundi Donald Tusk, le chef du gouvernement polonais, qui plaide pour des investissements massifs en Europe dans la défense, rappelant que son pays, la Pologne, consacre déjà presque 5% de son PIB à ses capacités de défense.
Merci beaucoup Daniel Valot pour ces explications détaillées. On l'évoquait à l'instant, des dirigeants européens se sont dit prêts ce lundi à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Mais les questions sont nombreuses concernant les modalités d'un tel déploiement. Franck Alexandre.
Dès dimanche soir, le Premier ministre britannique Keir Starmer a fait savoir qu'il était disposé à envoyer des soldats en Ukraine afin, dans le cadre d'un plan de paix, éloigner le spectre d'une nouvelle attaque russe. Dans le sillage de Londres, l'Allemagne et la Suède ont indiqué qu'elles n'étaient pas hostiles à ce projet que le président Macron avait déjà évoqué avec le président polonais Donald Tusk fin 2024. Reste à définir le cadre d'une telle intervention et le volume de troupes nécessaires au sol comme dans les airs, souligne Jean-Christophe Noël, chercheur à l'IFRI.
D'un point de vue aérien, vous pouvez imaginer effectivement donc des avions qui assurent une certaine police du ciel, en tout cas qui assurent que le territoire ukrainien ne serait pas survolé. Mais évidemment, ce qui serait important, ce serait éventuellement d'avoir des troupes au sol, qui là permettraient d'impliquer tous ces pays européens directement dans la défense de l'Ukraine. Beaucoup d'options sont possibles. Vous pouvez imaginer effectivement ces troupes en deuxième rideau qui servaient un petit peu de réserve. C'est-à-dire si à un moment il y avait un problème sur une partie de cette frontière gelée, qui soit là pour empêcher tout développement. Il ne faut pas imaginer qu'on enverra des centaines de milliers d'hommes. Ça sera probablement des contingents qui sont limités. Mais en tout cas, dont la présence aura une portée politique très importante. Et c'est de ce point de vue-là, notamment, qui seront très utiles.
S'il est peu probable qu'à très court terme, un plan concret soit élaboré par les Européens, jamais cependant le dossier ukrainien n'avait connu une telle accélération.
Franck Alexandre, tandis que les Européens s'organisent en urgence, Washington avance donc de son côté. Le Kremlin a confirmé la tenue demain, mardi, d'une réunion à Riyad entre des hauts responsables américains et russes. Marco Rubio, le chef de la diplomatie des États-Unis, va rencontrer Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Ce n'est pas une négociation sur l'Ukraine, assure Washington, mais la situation irrite Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui n'avait pas été prévenu de cette réunion, et il met en garde, l'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord sur son avenir s'il est conclu sans elle.
Dans l'actualité internationale également de ce lundi, le premier jour du procès des geôliers présumés du groupe État islamique à Paris.
Parmi les accusés, Mehdi Nemouche qui a déclaré ce lundi matin « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit ». L'auteur de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles en 2014, déjà condamné à la perpétuité, fait partie des 5 hommes poursuivis pour avoir participé à la séquestration en Syrie d'otages occidentaux, dont 4 journalistes français. Bonsoir Laura Martel.
Bonsoir.
L'un des journalistes, Nicolas Hénin, a confié l'importance pour lui de surtout raconter de l'intérieur les rouages de ce qu'il appelle la matrice de l'État islamique.
Oui, parce que si les faits sont anciens, ils datent de 2013-2014, ils montrent clairement l'évolution de la stratégie du groupe terroriste pour cibler les Occidentaux. Un groupe qui s'appelle encore État islamique en Irak et au Levant au moment des enlèvements et va se structurer pour se proclamer État islamique en juin 2014, 2 mois après la libération des Français. Avec le recul, on voit bien, au travers des exactions menées sur le sol syrien et des profils des personnes qui en seraient les auteurs, la matrice des projections à venir de djihadistes en Europe et le rôle centrale de la filière franco-belge. Mehdi Nemouche, français et geôlier présumé, sera ainsi le premier à revenir de Syrie pour frapper le musée juif de Bruxelles. Le belge Najim Lachraoui avait également été identifié comme geôlier et s'il n'est pas poursuivi, c'est parce qu'après avoir été l'artificier des attentats du 13 novembre 2015 en France, il sera l'un des kamikazes des attentats de Bruxelles en mars 2016. Or, l'homme qui a été condamné à perpétuité en France comme en Belgique pour avoir justement commandité ces deux attaques en tant que chef de la cellule des opérations extérieure, c'est le Belge Oussama Attar, justement l'un des deux accusés absents du procès et présumé mort. Le second, c'est le Français Salim Ben Galen, considéré comme le chef de la détention des otages. Lui, c'était un proche de Chérif Kouachi, l'un des terroristes des attentats de janvier 2015.
Merci beaucoup Laura Martel. Ce lundi 17 février, nous sommes à la veille de la fin de la première phase de la trêve au Liban. Or, l'armée israélienne annonce qu'elle compte se maintenir dans 5 points stratégiques au Liban, le long de la frontière. Elle devait en théorie retirer toutes ses troupes du sud du pays à partir de demain. Un peu plus tôt dans la journée, elle a aussi confirmé avoir tué un commandant du Hamas dans le sud du Liban. Il aurait planifié des attaques terroristes. Concernant Gaza maintenant, Benjamin Netanyahou l'assure dans un communiqué publié aujourd'hui. Je cite les mots du Premier ministre israélien. Il se doit de respecter le projet de Donald Trump, le président américain, qui a proposé de déplacer les 2 400 000 habitants de l'enclave palestinienne, puis de placer ce territoire sous le contrôle des États-Unis.
RFI Washington 13h09, vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir, présenté par Diane Berger. Diane, on se rend à présent aux États-Unis où la méthode Trump est contestée.
La bataille judiciaire autour de ces manières de procéder franchit une nouvelle étape. L'administration conteste une décision de justice devant la Cour suprême. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Bonjour.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
C'est la première fois que la plus haute instance judiciaire du pays est sollicitée dans ce flot de décisions.
Oui, et c'est donc l'administration Trump qui en appelle à la Cour suprême. Au départ, il y avait une décision intervenue le 7 février, celle de mettre fin aux fonctions par courrier électronique et en une phrase du patron de l'agence fédérale censée protéger les lanceurs d'alerte qui sont aussi employés fédéraux. Seulement Hampton Dellinger, c'est son nom, et dont le mandat court jusqu'en 2029, ne s'est pas laissé faire et il a contesté son renvoi en justice. En première instance, celle-ci lui a donné raison et a ordonné qu'il soit rétabli dans ses fonctions. L'administration a fait appel et samedi, la décision de première instance a été confirmée en appel. Dans son recours devant la Cour suprême déposé hier, l'administration Trump dénonce une attaque sans précédent contre la séparation des pouvoirs. Elle estime qu'aucun juge n'a jamais forcé le président à conserver un directeur d'agence ou ne l'a empêché de désigner son successeur. Plus largement, l'administration demande qu'il soit mis fin à la tendance qui dure depuis plusieurs semaines de certains juges d'échelon inférieur d'entraver son action. Et c'est vrai qu'il y a eu une quarantaine de poursuites judiciaires contre des décisions et qu'une douzaine ont été bloquées. La Cour à majorité conservatrice, et dont 3 des 9 membres ont été désignés par Donald Trump au cours de son premier mandat, a plusieurs jours pour se prononcer, mais cela pourrait arriver dès demain.
Merci beaucoup Guillaume Nodin, notre correspondant à Washington. Une crypto-monnaie au cœur d'une vague de plaintes en Argentine. Une juge a commencé aujourd'hui à centraliser toutes les réclamations concernant le lancement de la Libra. Vendredi, le président argentin Javier Milei a fait la promotion de cette crypto-monnaie. Sa valeur a explosé avant de s'effondrer presque aussitôt au détriment de ceux qui venaient d'investir. Et certains députés d'opposition demandent depuis la destitution du chef d'État.
Et puis des interrogations à propos de l'état de santé du pape François.
Le chef des catholiques est en effet toujours hospitalisé pour les suites d'une bronchite et il devrait rester plus longtemps que prévu à l'hôpital Gemelli. Bonsoir Éric Sénanc.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Les dernières nouvelles du pape ont soulevé ce lundi une certaine inquiétude.
Oui, tout à fait. On attend d'ailleurs une nouvelle communication du Vatican d'ici quelques minutes, ce soir, pour avoir plus d'informations sur l'état de santé réel du Saint-Père. Les derniers examens ont permis de diagnostiquer un cas complexe d'infection des voies respiratoires qui nécessite une hospitalisation adéquate. C'est ce qu'a sobrement précisé le Vatican à la mi-journée. Traduction, François restera donc beaucoup plus longtemps que prévu à l'hôpital. Son audience générale de mercredi a d'ores et déjà été annulée. Certains évoquent ici 8 à 10 jours d'hospitalisation. Alors sans être alarmiste, ces dernières informations provoquaient ici une certaine inquiétude. Le pape, vous le savez, a 88 ans et n'en est pas à son premier séjour à l'hôpital. Il avait d'ailleurs été hospitalisé au Gemelli en mars 2013 pour une infection pulmonaire. Mais les informations de ce lundi tranchent un peu avec celles distillées durant le week-end où François, avait-on appris, était de bonne humeur, avait passé même des nuits sereines. On a même su que le souverain pontife avait envoyé hier soir un message au curé de Gaza qu'il appelle presque tous les jours. Mais les informations donc de ce lundi, on se met un certain trouble. Les premiers traitements n'ont pas été efficaces et le pape suit donc une nouvelle thérapie dont il faudra encore attendre les résultats.
Éric Sénanc, correspondant de RFI au Vatican. La crainte d'une guerre régionale préoccupe Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, dans un entretien à la chaîne France 24. Il affirme au sujet de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, situation sur laquelle nous reviendrons dans Afrique Soir. Les enseignants-chercheurs reprennent le chemin des universités au Mali. Après 3 semaines d'une grève très suivie, le gouvernement malien a accepté la mise en place d'une commission de réflexion pour fixer le montant et les modalités d'application d'une prime pour ses professeurs.
Et puis, entre économie et écologie, la France qui veut concurrencer la Chine dans le domaine des éoliennes.
Paris mise beaucoup, en effet, sur l'éolien en mer pour produire une électricité décarbonée, moins polluante que les énergies fossiles. Et dans ce contexte, donc, Paris annonce avec le soutien de Bruxelles des mesures pour renforcer et privilégier l'industrie européenne de fabrication d'éoliennes, une forme de protectionnisme pour contrer un rival en particulier, le rival chinois. Le ministre de l'énergie français Marc Ferracci était au Havre ce lundi pour poser la première pierre de l'extension de l'usine d'éoliennes Siemens Gamesa à Jeanne Richard.
La nouvelle usine a reçu 170 millions d'euros d'aides publiques françaises et européennes. Objectif, produire dès l'année prochaine des pales d'éoliennes longues de 115 mètres parmi les plus grandes au monde et ainsi concurrencer la Chine, leader en la matière. Ce soutien à l'industrie et aux emplois en France doit également se concrétiser avec de nouvelles règles d'attribution des marchés publics d'éolien offshore. La France vise 18 gigawatts d'éolien en mer à l'horizon 2035.
Face à une concurrence internationale qui est souvent féroce, qui s'exercent parfois dans des conditions déloyales avec des producteurs, notamment asiatiques, qui sont très subventionnés par leurs États. Nous avons besoin de faire en sorte que les composants de ces éoliennes soient produits localement le plus possible. Nous souhaitons au fond sortir d'une forme de naïveté.
Concrètement, plus de la moitié des principaux éléments composant les éoliennes des futurs parcs offshore européens devront provenir d'un pays membre de l'Union. Le bilan carbone des éoliennes est aussi dans le viseur des autorités. Un bon signal pour l'association France Renouvelable, qui réunit les professionnels du secteur, qui permettra de limiter la dépendance européenne à la Chine et aux autres grandes puissances.
Jeanne Richard du service environnement de RFI a enfin un mot de la terre qui a tremblé au Portugal. Un séisme de magnitude 4,7 a touché la région de Lisbonne un peu plus tôt ce lundi. Aucun dégât important n'a été signalé pour l'instant. Il est maintenant 18h15.
En temps universel. C'était le grand journal du soir, présenté par Diane Berger. Merci à vous, Diane.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et nous sommes à 6 jours maintenant des élections législatives en Allemagne. Ce sera ce dimanche et un changement d'air est annoncé puisque le candidat de la CDU est en tête dans les sondages. Qui est Friedrich Merz? Portrait à suivre dans les prochaines minutes. Nous appellerons nos collègues du journal La Croix. Et puis connaissez-vous le fléau du protoxyde d'azote? C'est un gaz que de très nombreux jeunes inhalent et les conséquences pour la santé sont très nocives. Notre reportage à suivre. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous.
Alors le foot pour commencer, la Liga en Espagne qui se met à jour ce lundi soir.
Et quelle mise à jour pour clore cette 24e journée, le Barça, votre équipe favorite bien sûr, qui peut prendre la tête en cas de succès. Romain, le Barça reçoit le Rayo Vallecano, le troisième club de Madrid, hein, ça vous ne le saviez peut-être pas, derrière le Real et l'Atlético. Contraints l'un et l'autre, hein, le Real et l'Atlético au nul ce week-end. Le Rayo donc est un surprenant sixième pour l'instant. Une défaite en 12 matchs depuis le 1er décembre, 3 victoires de rang en championnat, des statistiques et une façon de jouer, surtout sans retenue, qui n'ont pas échappé à Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana.
And of course, Rayo make...
Bien sûr, le Rayo Vallecano fait vraiment du bon travail avec son entraîneur Inigo Pérez. C'est vraiment incroyable, parce que quand je suis arrivé au Barça, on m'a dit « Ok, au Rayo, c'est très difficile de gagner. C'est une équipe courageuse et ce n'est pas facile là-bas, parce qu'ils attaquent, ils pressent et ils le font avec une très haute intensité. Donc a priori, ils le font aussi à l'extérieur. C'est leur marque de fabrique. Et c'est pourquoi ils ont du succès et qu'ils s'en sortent vraiment très bien. »
Barcelone 3e face au Rayo Vallecano 6e, c'est à 20h temps universel. Foot encore parce que vous savez quoi?
Non, ça continue?
Ben oui, la Ligue des Champions, ça revient, ça s'arrête jamais cette année, on vous l'a dit. Quelle folie, demain, début des barrages retour, demain mardi, des barrages retour en vue des 8e de finale. 17h45, temps universel, le Milan AC accueille le Feyenoord Rotterdam, vainqueur 1-0 à l'aller. 20h, TU, ensuite, Monaco tentera d'inverser la tendance au Benfica Lisbonne, qu'il avait emporté 1-0 sur le Rocher mercredi. Le Bayern Munich avec... ou sans Harry Kane, qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, reçoit le Celtic Glasgow après s'être imposé 2-1 en Écosse. Enfin, l'Atalanta Bergame avec ou sans Ademola Lookman, le Nigérian, on saura demain, va devoir s'arracher l'Atalanta pour combler son retard sur le club Bruges qui s'était imposé 2-1 chez lui.
Voilà pour le foot et donc on va en parler dans les prochains jours encore du football. Le basket, Olivier, on va revenir sur l'All-Star Game, c'était la nuit dernière et ça s'est passé du côté de San Francisco.
Un match des étoiles qui a tenu toutes ses promesses, ce rendez-vous qui, vous le savez bien sûr, Romain, réunit les plus grandes stars de la franchise, NBA, entre spectacle et, surtout spectacle, hein, et performance. C'était la première participation de Victor Wembanyama, le français de 21 ans, qui s'est illustré de fort belle manière malgré la défaite, sous les yeux ébahis de la légende LeBron James, 21e participation pour lui à 40 ans. LeBron qui dit le plus grand bien du joueur des Spurs de San Antonio.
En ce qui concerne Wemby, de l'extérieur, ça se voit qu'il a la tête sur les épaules. Il prend soin de son corps, il met tous les ingrédients pour réussir. J'ai vu une citation où il disait qu'il ne vaut mieux pas l'appeler après 9h du soir parce qu'il est soit en train de lire, soit en train de dormir. Je pense que c'est super cool, car ça te permet de savoir son état d'esprit, où il en est intellectuellement, et ça c'est le top. Évidemment pour la franchise avec les Spurs, mais il va être formidable pour notre ligue pendant de nombreuses années. C'est véridique.
C'est bien pour tout le monde. Wembanyama qui dit des livres, hein, on l'a compris, ça étonne ceux qui n'en lisent pas ou moins. Il n'a pas été élu MVP, meilleur joueur de ce All-Star Game. C'est Stephen Curry, évidemment, qui a remporté la mise cette année.
Le tennis pour terminer, parce que, évidemment, on est lundi et le classement mondial, les classements mondiaux, eh bien, se sont mis à jour.
Ouais, Yannick Sinner chez les hommes est toujours largement en tête. Chez les hommes, encore une fois. 3000 points d'avance sur Zverev, qui devrait fondre ces 3000 points comme neige au soleil dans les prochains mois, les trois prochains mois, vu que l'Italien, on l'a appris samedi, est suspendu pour dopage jusqu'au 4 mai. Carlos Alcaraz complète le podium. La plus belle progression dans le top 20 est celle du Français Hugo Humbert, vainqueur hier à Marseille et qui passe de la 17e à la 14e place mondiale. La plus belle progression tout court, Romain, est pour le jeune prodige brésilien. Attention, celui-là, il va falloir le surveiller. João Fonseca, ça cogne. Vainqueur à 18 ans de son premier tournoi ce week-end à Buenos Aires. Le voilà qui passe de la 19e à la 68e place mondiale. Chez les femmes, aucun changement dans le top 10, hein, dominé par Sabalenka, la Bélarusse, devant la Polonaise Swiatek et l'Américaine Coco Gauff. Une autre Américaine, Amanda Anisimova, intègre pour la première fois le top 20 après avoir remporté le tournoi de Doha. Elle progresse de la 41e à la 18e place.
Merci. Voilà qui est complet, c'était Journal des Sports, présenté ce soir par Olivier Pron. Merci à vous, Olivier. 19h20 ici à Paris. L'Europe est ébranlée par les récentes prises de position de l'administration Trump concernant une fin de la guerre en Ukraine qui se ferait sans les 27. Tous les regards aujourd'hui sont tournés, on en a parlé hein, dans les éditions de RFI, mais vers Paris, où Emmanuel Macron accueille une réunion en urgence avec plusieurs dirigeants de pays clés européens. Et c'est dans ce contexte eh bien que dimanche vont se dérouler les élections législatives au sein de la première puissance économique du continent, l'Allemagne. Bonsoir Alain Guilmol.
Bonsoir.
Journaliste au service monde du journal La Croix, dans votre édition à paraître demain, mardi, vous vous intéressez bien à celui qui pourrait avoir affaire dans les prochaines années au président américain. Il est annoncé dans les sondages comme le futur chancelier. Il s'agit de Friedrich Merz, candidat de la CDU. On va évoquer ce qu'il propose dans son programme, mais d'abord, qui est-il Friedrich Merz? D'où vient-il? Quelles sont les origines de cet homme aujourd'hui, âgé de 69 ans?
Alors oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on va probablement apprendre à connaître même si aujourd'hui c'est en dehors de l'Allemagne, il est totalement inconnu, mais il est appelé sans doute à jouer les premiers rôles et à devenir chancelier. C'est quelqu'un donc qui a effectivement 69 ans, qui vient de la Rhénanie du Nord, d'une petite ville de Rhénanie du Nord. Il est le fils d'un juge, d'une famille de notables catholiques de cette petite ville. Et c'est quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie. Enfin, dès 17 ans, il s'est engagé au sein de la CDU. Lui-même est un juriste. Il a été député européen, député, membre du Bundestag, donc puis président de la délégation parlementaire au Bundestag, donc ce qui est un rôle politique très important en Allemagne, puisque bon, c'est une démocratie parlementaire et où le Bundestag passe d'un poids très très important, mais il n'a jamais eu de mandat exécutif. Il n'a jamais été ministre et il a quitté la politique au début des années Merkel parce qu'il, lui, est un conservateur, plutôt libéral en économie et conservateur sur le plan des valeurs. Et il était dans la minorité du parti chrétien-démocrate. Et donc, à ce moment-là, il a quitté la politique avant de revenir quand Merkel a quitté ses fonctions. Et aujourd'hui, il brigue en quelque sorte une certaine forme de revanche politique.
Alors, la formule qu'il affectionne, Friedrich Merz, c'est remettre l'Allemagne sur de bons rails. Donc, ça donne le ton de sa campagne. Ça veut dire quoi? Ça se traduirait comment dans son programme, le fait de remettre l'Allemagne sur de bons rails?
Oui, c'est quelqu'un qui exprime un certain volontarisme. Quand il dit ça, c'est intéressant parce que justement, il est très critique de la politique allemande actuelle qui est menée par les sociaux-démocrates, enfin une coalition sociaux-démocrates verts, libéraux. Mmh. Mais il est aussi critique des années Merkel. C'est-à-dire quand il dit que l'Allemagne est sortie de ses bons rails, il fait référence aux 20 dernières années assez facilement, quoi. C'est-à-dire il englobe Merkel parce qu'il lui reproche notamment d'avoir fermé les centrales nucléaires en Allemagne. Il lui reproche d'avoir ouvert la porte à l'immigration en 2015 quand il y a eu cette crise migratoire et avec notamment l'arrivée d'énormément d'un million de Syriens. Et lui est extrêmement ferme sur l'immigration, par exemple, au point de se rapprocher un petit peu du discours de l'extrême droite, même s'il n'entend pas s'allier avec eux et s'il n'est pas du tout d'accord avec eux, parce que lui est plutôt un pro-européen. Vous voyez, on a titré le papier d'ailleurs un conservateur pro-européen. C'est le paradoxe du personnage, c'est-à-dire qu'il est à la fois très engagé en faveur de la construction européenne et en même temps, il veut une Europe des nations, une Europe dans laquelle les États jouent un rôle prépondérant. Et en particulier, bien sûr, il sera le garant des intérêts allemands.
Alors, il sera s'il est élu, mais pour gouverner en Allemagne, ça se passe par une coalition. À qui, s'il est élu chancelier, Friedrich Merz peut tendre la main et qui peut accepter cette main tendue dans le jeu politique allemand ?
Alors écoutez, ce qu'il dit, lui, aujourd'hui, à ce stade, c'est qu'il tendra la main plutôt aux sociaux-démocrates ou plutôt aux Verts. Et peut-être aux deux, d'ailleurs, parce que s'il n'a pas un score suffisant, il devra former à nouveau une coalition tripartite, comme celle qui cède la place aujourd'hui. Et évidemment, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est qu'une coalition tripartite, c'est beaucoup plus compliqué qu'une coalition à deux. S'il réussit son pari, il pourra, en quelque sorte, mettre en concurrence les Verts et le SPD, et puis choisir... en quelque sorte, conclure avec le plus offrant, quoi, celui qui se rangera le plus derrière son programme et ses priorités. Mais ce qui est sûr, c'est que le système allemand est très habitué à ces négociations et à constituer des coalitions. Et c'est bien de toute façon le scénario qui se profile, évidemment.
Et ben, ce portrait de Friedrich Merz est à découvrir donc ce mardi dans La Croix. Merci beaucoup, Alain Guilmol.
Merci à vous.
Et bonne soirée à vous. Ce véritable fléau pour la jeunesse, à présent, le protoxyde d'azote, le savez-vous ? Il s'agit de la deuxième substance la plus consommée par les 13-25 ans après le cannabis. C'est un gaz qui est interdit à la vente aux mineurs, mais face à une situation alarmante, eh bien une proposition de loi propose que ce soit uniquement les professionnels qui puissent l'utiliser. Reportage de Marie Casadebé et Lisa Barrel-Frémaux.
Paralysie des jambes, paralysie des mains. Quand je fermais les yeux, je tombais. Une infection au poumon, j'en ai perdu un.
Sofiane a 22 ans, il était plombier. À cause de sa consommation de gaz hilarant, il a dû arrêter son métier.
La première fois que j'en ai pris, c'était pendant le confinement, en 2020, je crois. Je devais avoir 19 ans et après j'ai continué. C'était quotidien. En fait, on pouvait ressentir une sensation de joie. On oubliait les problèmes et... Si on arrête le ballon, au bout de 10 secondes, l'effet il se dissipe. On avait envie d'en refaire, en fait.
Il y a un an, environ, il est hospitalisé. Il n'arrive plus à respirer. Et pour cause, un de ses poumons ne fonctionne plus. Il perd aussi l'usage de ses jambes. Encore aujourd'hui, il suit un programme de rééducation.
Je suis resté en fauteuil roulant 6 mois. C'est comme si nos muscles ils étaient retournés à zéro. J'ai récupéré mes jambes avec le temps alors d'aujourd'hui, je travaille toujours sur la force musculaire.
Le protoxyde d'azote est le plus souvent utilisé par des professionnels dans le milieu médical comme anesthésiant ou encore dans l'agroalimentaire. Les jeunes le consomment pour ses effets euphorisants. Ils percent les cartouches, remplissent un ballon avec et l'inhalent. Françoise Cochet connaît bien les effets de ce gaz sur la santé. Elle est présidente de l'association APEAS qui lutte contre les jeux dangereux.
Le problème, c'est que ces gaz traversent la paroi des alvéoles pulmonaires, passent dans le sang et arrivent instantanément au niveau cérébral. Le danger majeur de toutes ces pratiques d'inspiration de n'importe quel autre gaz que l'air, c'est le risque d'arrêt cardiaque.
Et le consommateur peut rapidement devenir dépendant. C'est ce qui est arrivé à Sofiane.
Dès la première consommation, on devient addict. Dès qu'on commence à ressentir les effets, c'est fini, après on a envie d'en refaire. Par mois, des fois je pouvais utiliser 600 euros. Ça dépendait de mon budget à moi, mais... Si j'avais l'argent pour consommer, j'achetais. J'avais pas de limite.
Aujourd'hui, Sofiane a arrêté d'en consommer et témoigne. Pour lui, limiter l'accès du protoxyde d'azote aux professionnels est une bonne chose. Mais pour Françoise Cochet, ce n'est pas la solution.
Pour nous, la seule façon de contrer ces accidents, c'est la prévention. Donc la prévention d'une part des adultes, pour les informer, les parents mais aussi les professionnels. Et puis, bien évidemment, la prévention auprès des élèves.
Il y a une dizaine de jours, les députés ont adopté cette proposition de loi. Prochainement, ce sera le Sénat qui se prononcera sur le texte.
Reportage signé Marie Casadebé. Et sur RFI, dans une minute, ce sera Afrique Soir, la première édition. Il sera 19h30 ici à Paris. Et puis ensuite, à partir de 20h après le grand journal du soir, 20h10, votre session reportage pendant 50 minutes. Ne ratez pas, Action d'Europe sera au Groenland ce soir pour évoquer le réchauffement climatique.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Togo, après les législatives d'avril, le parti présidentiel vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Un succès qui ouvre la voie à l'élection de Fornia Simbe comme président du Conseil. Que vous inspire ce nouveau régime parlementaire ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À Louga, dans le nord du Sénégal, les contes et les épopées ont la vie dure. Pour raconter l'histoire des anciens royaumes, éduquer les enfants, conteurs et griots ont plus d'un mot sur la bouche et pas des mots à la légère, selon Youssour Margane, déclaré trésor vivant en son pays.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.